Ce podcast vous est présenté par Découvre Bitcoin et a été produit grâce au dévouement de nos contributeurs. Alors merci à eux. Pour soutenir notre émission, n'hésitez pas à vous abonner et à nous attribuer une note sur votre application de podcast préférée. Cela nous aide énormément. Vous pouvez aussi nous aider en utilisant une application de podcast 2.0 telle que Breeze ou Fountain pour nous écouter et nous streamer des sats. Sur ce, on vous souhaite une excellente écoute.
Prince, enchanté et merci d'être avec nous sur la ligne orange. Tu vas pouvoir te présenter. Moi, si je peux déjà dire la manière dont je te connais, parce qu'on se connaît peu, au final, on se parle. C'est pratiquement la première fois qu'on se parle en vrai, donc c'est une vraie occasion de pouvoir découvrir, même pour moi, qui se cache derrière la personne que je connais sur Twitter. Et donc, tu es à l'initiative du podcast L'Afrique par le Bitcoin, qui est un podcast qui a lieu tous les dimanches après l'entonnoir. C'est d'ailleurs la manière dont je te connais, parce que je vais à ce podcast après avoir assisté à l'entonnoir, et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette initiative et comment tu en es arrivé à créer ce podcast et qu'est-ce qui se cache derrière?
Alors, tout d'abord, merci de me recevoir pour ce podcast, à Rogi et à toi. Donc, vous êtes pour beaucoup dans ma démarche de connaissance de Bitcoin, j'ai littéralement binge-watché toutes les vidéos que Rogi a faites dans le cadre de Découvre Bitcoin. Et c'est un honneur pour moi d'en discuter avec vous. Donc, le podcast, c'est L'Afrique par le Bitcoin, effectivement. En fait, toi, tu l'as connu plutôt dans sa seconde phase, parce qu'à la base, c'était un podcast dans lequel je reçois des bitcoiners africains, où on essaie de parler de leur conception de Bitcoin, de ce qu'ils voient comme futur pour Bitcoin, et puis essayer d'en parler pour démystifier un peu le sujet. Parce que, en tournant un peu dans l'écosystème, en regardant un peu ce qui se passe dans les communautés africaines, il y a beaucoup de désinformation. Les gens ne considèrent pas Bitcoin pour ce qu'il est vraiment. Donc, ils l'utilisent, pas comme il le faut, mais c'est surtout qu'ils s'en détournent. Il y a beaucoup de shitcoinerie, il y a beaucoup d'arnaques et tout, et il y a beaucoup de conceptions erronées de ce qu'est Bitcoin. Donc, je me suis dit, après avoir consommé beaucoup de contenu sur Bitcoin, que j'allais en produire avec un prisme particulier de l'utilisation des usages, des perspectives pour la communauté africaine francophone, africaine de façon générale, avec des interlocuteurs qui sont beaucoup plus francophones. Donc ça a commencé par des interviews avec des acteurs, des personnes qui créent des choses autour de Bitcoin. On discute de leurs projets, on discute de leurs perspectives, on discute de leur conception de Bitcoin. Et puis depuis quelques mois, on a viré à des spaces sur Twitter, parce que tu as beaucoup plus d'émulation sur Bien Twitter sûr. Autour de ce sujet. Donc, tous les dimanches soirs, on s'organise des spaces de 1h, 2h, où on parle de l'actualité autour de Bitcoin en Afrique, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et ça, c'est un des éléments que j'ai trouvé hyper important en côtoyant beaucoup plus la communauté, en essayant de connecter les initiatives, les communautés. Tu te rends compte qu'il y a énormément de choses qui se passent sur Bitcoin en Afrique. On entend parler du Nigeria, mais pas que. Il y a aussi beaucoup d'initiatives, même dans les pays francophones. Il y a également beaucoup d'idées, beaucoup de perceptions erronées de comment Bitcoin est utilisé en Afrique. Je veux dire, quand on parle des chiffres de Bitcoin au Nigeria, par exemple, ça fait rêver les Bitcoiners. Ils pensent que Bitcoin est utilisé par quasiment tout le monde, on a 40% d'adoption et qu'au petit coin de la rue, tu peux trouver Bitcoin, pouvoir faire des transactions en Bitcoin. Alors que ce n'est pas exactement ça qui se passe. Il y a beaucoup de surinterprétations ou d'interprétations pas correctes de l'actualité dans ces pays. On a vu ce qui s'est passé quand il y a eu les élections au Nigeria, par exemple, au début de l'année. On a eu le fait que des gens considéraient qu'il y avait un premium sur l'achat du Bitcoin au Nigeria, s'explique par des éléments de contexte assez simples, mais ça a été tourné par les Bitcoin, enfin les médias de façon générale, ou les médias même Bitcoin orientés, en mode il y a un besoin de Bitcoin qui est super prenant au Nigeria, au point où les gens l'achètent avec un premium. Alors que l'explication est relativement simple. Quand tu connais le contexte, le fait qu'il y a deux taux de change dans le pays et que les gens l'achètent avec le taux de change dans la rue et le valorisent avec le taux de change officiel, ce qui crée le spread et donne l'impression qu'on l'achète beaucoup plus cher, alors que non. De toute façon, les gens n'ont accès à Bitcoin qu'à un cours qui est le cours de la rue. Donc la valorisation se faisant avec un coût moindre, on a l'impression qu'ils achètent avec 70% de premium. Ça a toujours été comme ça. Mais vu qu'il y a quelqu'un qui a balancé la nouvelle, ça s'est répandu comme une traînée de poudre. C'est des choses qui s'expliquent relativement facilement quand tu connais le contexte. Donc c'est un peu ces choses-là que j'essaie de faire à travers ce podcast, connecter des communautés, parler de l'actualité et puis mettre en avant des projets intéressants sur Bitcoin, enfin des projets qui viennent d'Afrique de façon générale.
Ton analyse, elle est super intéressante. Enfin, moi, je sais que, justement, n'étant pas au courant de ce qui se passe exactement sur le continent africain, j'ai aussi à ma disposition des informations que j'ai du mal à interpréter. Et notamment, je me souviens de ton intervention sur un entonnoir où tu avais fait une explication très claire de ce que tu viens d'expliquer au Nigeria. Et pour moi, je trouve que c'est du coup une perspective vraiment intéressante parce que ça nous permet de comprendre des choses qu'on ne maîtrise pas, parce que les médias, la manière dont ça nous est apporté, c'est souvent assez biaisé et ça raconte une réalité pas complète. Donc c'est vraiment intéressant parce que je pense que le continent africain, il va être au cœur de ce qui va se passer avec Bitcoin, et du coup avoir des gens comme toi qui sont vraiment experts sur l'aspect social, l'aspect économique de ce qui se passe sur ce continent, c'est vraiment prenant. Et d'ailleurs, je pense que tu peux peut-être nous en parler. Moi, ce qui m'a vraiment intéressé et je trouve ce qui challenge pas mal de mes idées par rapport à Bitcoin, c'est la mobile money. En Afrique, c'est quelque chose de très obscur pour un Européen. Et pourtant, c'est au cœur des transactions de millions de personnes par jour. Et je pense qu'on devrait se nourrir de cette expérience pour comprendre comment Bitcoin va justement prendre place dans des pays avec un besoin d'une monnaie de meilleure qualité. Du coup, est-ce que, je sais pas, tu peux nous en dire plus sur la mobile monnaie, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ?
C'est une question qui est très importante, qui est très pertinente, parce que pour comprendre l'adoption qui est en train de se faire de Bitcoin en Afrique, selon moi, un des éléments de contexte qui favorise cette adoption-là, c'est le mobile money. Mm-hmm. C'est vraiment un élément de contexte qui est très important pour comprendre un peu le mindset et comment est-ce que ces choses vont aussi vite. Donc, le mobile money, pour faire simple, en fait, c'est de l'argent électronique qui est disponible à tous ceux qui ont des comptes chez les opérateurs de téléphonie mobile. Les opérateurs de téléphonie mobile ont eu une percée qui est juste extraordinaire dans les pays du Sud, dans les pays d'Afrique, de façon générale. Pour vous donner une autre idée, en Côte d'Ivoire, parce que moi je suis originaire de Côte d'Ivoire, le taux de pénétration du mobile money en 2022, c'est entre 130 et 140%. Enfin, de la téléphonie mobile, pardon. Du téléphone portable, c'est entre 130 et 140%. Okay. Ça s'explique par le fait qu'on n'est pas sûr de l'abonnement, comme c'est le cas en Europe ou dans les pays de l'Ouest, les pays occidentaux. On est sûr du prépayé. Donc, les gens, pour tirer avantage des offres, et surtout pour des questions de couverture, parce que tu as les opérateurs qui n'ont pas le même niveau de couverture sur le pays. Donc les gens ont plusieurs numéros de téléphone. Donc ils sont abonnés à plusieurs opérateurs. Ils sont clients de plusieurs opérateurs. Et en fonction du contexte, de ce qu'ils veulent faire comme communication, de leur zone géographique, ils utilisent l'un ou l'autre. Donc c'est ça qui fait que les gens ont plusieurs numéros de téléphone. Et donc tu as un taux de pénétration de la téléphonie mobile qui est très fort. Donc je donne l'exemple de la Côte d'Ivoire, mais je pense que de façon générale, en Afrique, on doit être aux alentours de 70-80% de taux de pénétration de la téléphonie mobile. Et donc, les opérateurs de téléphonie se sont dit pourquoi pas utiliser cette couverture-là pour offrir des services bancaires. Parce que le taux de pénétration, le taux de bancarisation, pardon, il est très faible en Afrique de façon générale. Donc, je pense que le leader, l'un des premiers à le faire, c'est M-Pesa, donc au Kenya, par la compagnie nationale, donc qui a lancé ce service-là. M-Pesa, il me semble, ça doit dire argent dans la langue locale. Et il permet aux clients des opérateurs de téléphonie d'avoir un wallet mobile qui est lié à leur numéro de téléphone. Donc, en gros, tu as un numéro de téléphone. Bon, maintenant, c'est KYC, donc tu dois t'identifier par un numéro de téléphone. Donc, tu as un compte qui est lié à ton numéro de téléphone. Et sur cette base-là, tu peux envoyer de l'argent, donc de la monnaie électronique, à d'autres personnes sur la base de leur numéro de téléphone. Donc, ils se sont appuyés sur plusieurs choses, y compris le niveau de maillage. Parce que, comme je l'ai dit, on est sur du prépayé. Donc, une des raisons de l'explosion de la téléphonie, c'est qu'ils ont un excellent réseau de distribution. Donc, c'est des gens qui ont des box à tous les points de rue, qui couvrent quasiment tout le territoire et qui permettent aux gens d'acheter des unités de communication, du crédit de communication. Donc, ils ont un réseau de distribution qui est très performant. Donc, ils se sont appuyés dessus pour lancer leur offre de mobile money. À la base, le premier service que le mobile money offrait, c'était la possibilité de transformer son argent mobile money, donc qui est dans la monnaie locale, en crédit de communication. Donc plutôt que de se déplacer vers un de ces boxes-là pour acheter 500 francs CFA, 1000 francs CFA de crédit de communication, tu peux avoir de l'argent que tu convertis en crédit de communication. C'était le premier cas d'usage. Et puis ensuite, le second cas d'usage, ça a été le transfert d'argent, des transferts de fonds. Donc, mais en interne, dans le pays. Donc, tu veux envoyer de l'argent à quelqu'un qui est dans une autre ville, tu utilises du mobile money plutôt que Western Union ou les sociétés qui offrent le service de transfert de fonds qui restent coûteux. Ils ont vraiment cassé les coûts. Je veux dire, le mobile money était beaucoup moins cher que les services de transfert de fonds classiques. Et donc, c'est comme ça que ça a pénétré le marché. Et je pense que le coup de massue, ils l'ont donné quand ils ont permis aux gens de régler les services publics. Donc, tu veux payer ta facture d'électricité, ta facture d'eau, ta facture d'Internet ou de téléphone, tu utilises du mobile money. Plutôt que de faire de longues files d'attente à la caisse de la poste ou de la compagnie d'électricité pour payer ta facture, tu utilises le mobile money. Je pense que ça a été le vrai game changer qui a poussé l'adoption dans la population. Donc les gens ont vu une alternative à un problème qu'ils avaient. Ils faisaient de longues files, il y avait beaucoup d'inefficience, de perte de temps, de déplacement pour aller dans les caisses de ces opérateurs-là, de ces compagnies publiques. Ils passaient par le mobile money. Tu as un box dans un petit coin de ta rue, tu pars, tu recharges pour ton compte mobile money pour 20 000, 30 000 francs, et ces 30 000 francs, directement à partir de ton téléphone, en utilisant du code USSD, donc c'est des combinaisons de codes, tu n'as pas besoin d'Internet, ça utilise le network de communication, tu fais une combinaison de chiffres, là, et tu as la possibilité de payer ta facture d'électricité directement sans te déplacer. Ça a été l'élément d'adoption clé et qui a fait que tout le monde s'y est mis. Et bah, quand tu commences, tu te prends au jeu et tu commences à transférer de l'argent aux gens. Et il y a eu ensuite les cas d'usage de paiement avec le mobile money. Donc tu as la possibilité, quand tu pars dans un commerce, quand tu pars dans un supermarché, de payer avec du mobile money plutôt que de sortir de l'argent en espèces. Donc ça a vraiment été une explosion. Et pour donner notre idée, toujours en me basant sur les chiffres de Côte d'Ivoire, on est aux alentours de 70-80% de taux de pénétration du mobile money. C'est ce qui est absolument énorme. On parle d'un taux de bancarisation de l'ordre de... je veux pas dire n'importe quoi, mais je pense qu'on doit être de l'ordre de 30% en Côte d'Ivoire, mais c'est beaucoup plus bas dans d'autres pays à côté. Maintenant, une chose aussi qui est importante, c'est pas forcément uniforme. Il y a vraiment des exceptions. Quand tu prends les pays d'Afrique du Nord, par exemple, le mobile money n'a pas eu un taux d'adoption très fort là-bas. Quand tu prends des pays comme le Nigeria n'a pas un taux d'adoption fort du mobile money, comme c'est le cas en Côte d'Ivoire, au Kenya ou dans les autres pays d'Afrique francophone. Donc, tu as des pays comme le Nigeria, l'Afrique du Sud, qui sont des exceptions, dans lesquels le mobile money n'a pas eu une percée extraordinaire parce que Il y avait déjà un fort taux de bancarisation. Au Nigeria, par exemple, le lobby bancaire, il est très fort. Donc, ils ont vraiment serré la vis, fermé la porte au mobile money. Mmh. C'est que ces 4-5 dernières années que le mobile money est en train de connaître un développement au Nigeria, par exemple, ce qui n'est absolument pas le cas. Au Kenya, c'est juste ahurissant. Je lisais récemment que un tiers du PIB du pays est passé par du mobile money.
C'est juste dingue. Et en fait, je pense que les Européens, ou en tout cas tous ceux qui ne sont pas sur le continent africain, ne se rendent pas forcément compte de ça. Et en fait, c'est une réalisation qui est assez prenante, en fait, parce qu'on pourrait presque dire que sur le point du paiement par mobile, l'Afrique est en avance, d'une certaine manière. Parce que moi, souvent, quand je parle de Bitcoin et l'utilité sociale de Bitcoin pour pouvoir bancariser des personnes, la première remarque que j'ai, c'est oui, mais les pays en développement, ils ne vont pas pouvoir utiliser leur téléphone pour pouvoir faire des paiements, t'imagines. Et en fait, je pense que c'est même nous, Européens, qui avons moins l'habitude d'utiliser notre téléphone comme moyen de paiement que le continent africain. Et ce qui est contre-intuitif, parce qu'on aurait l'impression que nous, ayant accès à une couverture 4G supérieure et avec sûrement des terminaux mobiles supérieurs, c'est nous qui aurions une longueur d'avance sur l'adoption de paiements par téléphone. Or, on se rend compte qu'en Afrique, ce type de paiement, c'est quelque chose qui a naturellement pris place par un besoin qui est né d'un manque et qui du coup nourrit un peu cette idée que s'il y a une utilité, les gens trouveront une manière de le faire fonctionner, et que si la monnaie a besoin d'être utilisée à travers, comme tu l'expliques, un mobile money, des codes USSD, les gens arrivent à l'utiliser. Et donc c'est assez fascinant. Et je pense que du coup, ça aussi, c'est quelque chose que tu t'expliques bien. Et je pense qu'il est important d'expliquer aussi aux personnes, aux viewers.
C'est exactement ça, tu vois. Le mobile money, ça a été, comme tu as dit, très contre-intuitif, en fait. Les gens ne pensaient pas, au début du mobile money, personne n'aurait parié que ce truc mm-hmm. aurait marché. Parce qu'on se dit, il y a beaucoup, le taux d'analphabétisme est plutôt élevé, le taux d'alphabétisme est bas plutôt. On a la limite technologique, le fait que il n'y a pas d'internet, machin et tout, mais les gens ont créé des produits qui s'adaptaient à ces besoins-là. Enfin, moi, j'arrivais aisément à envoyer du mobile money à ma grand-mère dans son village, à des gens qui étaient dans des endroits très reculés, grâce au mobile money, parce qu'ils ont la couverture, pas forcément internet, mais ils ont la couverture téléphonique. Donc, tant qu'on peut se passer des appels téléphoniques, on peut utiliser du code USSD pour s'envoyer de l'argent. Et les gens, ils vont cash out avec le petit box du quartier, qui est le mec chez qui on va acheter du crédit de communication. Tu peux cash out chez lui. Donc, ces petits box-là se sont avérés être un peu comme des distributeurs, l'équivalent de distributeurs. Si tu veux cash out ou cash in, tu pars le voir, tu recharges ton compte ou tu récupères de l'argent pour subvenir à des besoins pour lesquels la personne en face ne veut pas forcément recevoir du mobile money. Donc, dans la plupart des cas, la personne le peut. Si pour différentes raisons, la personne veut du cash, tu peux immédiatement récupérer de l'argent en cash et donner cet argent à cette personne. Et ça fait que ça a eu une pénétration vraiment extraordinaire.
Et d'ailleurs, tu peux peut-être du coup préciser, si peut-être que je me trompe, mais dans ma ville, dans les quartiers où généralement il y a beaucoup de diaspora venant d'Afrique, pas justement d'Afrique noire plus que du Maghreb, puisque c'est vrai qu'on se rend compte que la mobile money cible quand même une partie de l'Afrique, ou en tout cas pas tous les pays. Il y a des publicités que je vois pas dans d'autres quartiers pour Orange Money. Et du coup, Orange Money, moi la manière dont je l'interprète, c'est que c'est de la mobile money qui peut être envoyée depuis l'Europe. Et donc, moi, ce que je trouve incroyable pour quelqu'un n'ayant vécu qu'en Europe, c'est que au mieux, ma relation avec Orange, pour moi, ça va être un opérateur téléphonique. Et pour beaucoup d'Africains, la relation qu'ils vont avoir avec cette même entreprise, bah en fait, ça va être une banque.
C'est leur banque.
Et autant je me sens confortable avec le fait qu'Orange soit mon opérateur téléphonique, et pas tout le temps, et pourtant, mais je pense que ce serait vachement désagréable pour moi que cette relation s'étende jusqu'à ce que cette entreprise soit une banque. Et donc encore plus quand on considère qu'Orange est en France, donc encore si Orange était une banque en France, pourquoi pas, mais encore plus quand on est dans un pays africain et donc du coup qu'on a une entreprise étrangère qui fait office de banque dans notre propre pays. Enfin voilà, c'est, en tout cas c'est pour exprimer à quel point quand on creuse le sujet de la mobile money, je pense qu'il est essentiel à la compréhension de comment fonctionne l'argent dans le monde, tout le monde sur la planète n'utilise pas l'argent de la même manière et que c'est pas aussi simple que ça, que même le cash, c'est pas aussi simple que ça dans certains pays et donc c'est franchement étonnant. Et donc là où je pense que ça peut nous emmener, moi, une initiative que j'ai trouvée fascinante, c'est Matchankura, parce que tu parlais des codes USSD. Donc, tu pourras peut-être développer ça. En tout cas, je peux te dire mon analyse et peut-être que tu pourras me dire si j'ai juste par rapport au fonctionnement de l'USSD. Mais donc, moi, quand j'ai grandi, j'ai eu ces premiers téléphones qui étaient des téléphones, des feature phones, ouais, qui du coup pouvaient faire des appels ou des textos. Mais quand on achetait des magazines, il y avait la possibilité, en tapant quelques numéros, de pouvoir télécharger des logos et des sonneries. Et donc, ce que je comprends, c'est que dans une certaine mesure, sur le protocole GSM de base, il y a une couche qui permet d'envoyer des datas d'une manière un peu plus complexe que les textos ou les appels. Et c'est ça qui était utilisé à l'époque pour pouvoir télécharger des logos et des sonneries. Est-ce que l'USSD, c'est ça, au fond, qui est du coup la même chose utilisée par le mobile money?
C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça.
Et donc, mon analyse, c'est que du coup, ce protocole USSD qui était donc utilisé pour nous, pour ces sonneries ou ces logos, il est utilisé de la même manière pour pouvoir envoyer de la donnée, donc pouvoir envoyer de l'argent à d'autres personnes à travers le réseau. Ce qui aussi peut parler peut-être aux personnes aussi, la manière dont les gens regardaient combien de crédits téléphoniques il leur restait sur leur téléphone en tapant genre une suite de caractères. Je pense que ça peut être parlant parce que du coup, moi, quand je pense code USSD, quand je pense à taper des étoiles, ce genre de choses, un chiffre, des dièses et ce genre de choses. Voilà.
C'est exactement comme ça que ça fonctionne. En fait, pour en revenir à Matchankura, du coup, l'idée de Kokatso, elle est géniale. Kokatso, c'est le développeur sud-africain qui a lancé l'application. L'idée, elle est géniale parce que il est face à un problème. On a Bitcoin qui est en cours d'adoption sur le continent, dans plusieurs pays, pour différentes raisons, qu'on va peut-être évoquer plus tard. Et il y a la limitation technologique. Tu as peu de couverture Internet, t'as moins de smartphones pour pouvoir le faire. Et il s'est dit, je vais offrir la possibilité de faire des transactions Bitcoin via Lightning Network, en utilisant quelque chose qui est parlant, quelque chose que les gens ont l'habitude d'utiliser. Parce que même aujourd'hui, tu as la possibilité d'utiliser de l'USSD pour faire du mobile money, pour recharger ton compte et tout ça. Donc, ce qu'il a fait, c'est offrir un service qui permet aux gens d'utiliser ces codes USSD-là pour s'envoyer ou recevoir des bitcoins. Et ça, c'était une superbe idée, enfin, conceptuellement. Je trouve ça absolument génial. Après, un des éléments aussi pour revenir à la réalité des choses, c'est qu'on n'a pas un niveau d'adoption ouf de ce truc-là. C'est relativement naissant. Il y a beaucoup de compromis qu'il faut faire. J'ai également vu beaucoup de bitcoiners critiquer le fait que ce soit custodial. C'est un compromis qu'il a fait. Donc ça veut dire, en gros, qu'il doit passer des accords avec les opérateurs de téléphonie mobile des pays dans lesquels c'est déployé. Pour l'instant, il me semble que c'est déployé dans un peu moins d'une dizaine de pays, principalement des pays anglophones, Afrique du Sud, Zambie, Nigeria, Ghana, peut-être le Kenya, enfin la Gambie. Donc, il doit passer des accords avec les opérateurs de téléphonie mobile pour qu'ils leur donnent accès à leurs différentes API, machin et tout. Et puis, en fait, il connecte ça à son service custodial Lightning. Donc, les gens utilisent Lightning, donc Bitcoin via Lightning, en passant par ses infrastructures à lui. Donc, il y a un certain niveau de custody. Et c'est en train de monter tout doucement. Comme je le disais, disponible dans une dizaine de pays, il avait l'habitude de communiquer sur le nombre de clients qu'il avait à la semaine, le nombre de transactions pour montrer un peu la croissance. Je pense que depuis un moment, il ne le fait plus, tout du moins je ne le vois pas passer. Mais il faut comprendre que c'est quelque chose de très naissant, c'est vraiment un niveau d'adoption très bas. Et puis tout doucement, les gens sont en train de s'y faire. Donc il y a déjà tout ce que nous on fait, tu vois, en termes d'éducation, permettre aux gens de connaître. Et puis il y a les autres éléments de contexte qui font que les gens ils adoptent Bitcoin, ils cherchent des solutions, et puis Machin Kora peut se positionner comme une application qu'ils peuvent utiliser pour interagir avec Bitcoin.
Et en fait, voilà, donc pour expliquer aux gens visuellement à quoi ça ressemble, donc mobile money, on imagine deux personnes dans deux endroits peut-être du même pays d'Afrique qui s'envoient donc des messages, enfin de l'argent en utilisant le mobile money avec ces codes USSD sur leur téléphone. Machin Kora, c'est la même chose, sauf que c'est Bitcoin.
Du Lightning, exactement.
C'est du Lightning. Et donc la personne envoie avec donc un feature phone, donc qui est l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler un Nokia 3310, grosso modo. Et ben avec son Nokia 3310, il tape une série de codes et ça lui permet d'envoyer des sats à quelqu'un d'autre dans le même pays ou pas. Mais donc, ce qui est assez étonnant, parce que du coup, ça ne dépend pas de couverture 3G, ni Edge, ni 4G. Ça utilise seulement le réseau GSM, qui est relativement développé en Afrique. Et donc, le compromis pour ça, effectivement, c'est que c'est un service custodial. Donc, les fonds sont détenus par le nœud de Machin Kora. Et donc, c'est un compromis pour moi qui est intéressant. Et en fait, je comprends les limitations techniques qui font que son compromis existe. Et je dirais que je fais partie des personnes qui reconnaissent la nuance qu'on va avoir besoin d'avoir dans notre analyse de l'adoption et des solutions. Que un wallet que je plébiscite dans le lieu dans lequel on se trouve, avec des plebs et des bitcoiners convaincus dans un pays du G20, Phoenix, c'est un excellent wallet. Par contre, est-ce que ce même wallet s'inscrit dans l'utilisation que je peux imaginez pour une personne qui se trouve en Afrique et avec un matériel et un réseau différent, pas vraiment. Et donc du coup, cette adoption, elle va se faire avec ces solutions qui seront des compromis. Et aujourd'hui, la question, je pense, à se poser, c'est vaut-il mieux avoir quelqu'un qui utilise Lightning de manière custodial ou quelqu'un qui utilise Orange comme banque, parce que je trouve que c'est du coup de la custody mais au niveau au-dessus, quoi. Donc c'est vrai que voilà, c'est en tout cas moi l'analyse que j'en ai, et c'est mais donc ce que fait Kokatsu
avec Machin Kora, la solution c'est Machin Kora.
Voilà, c'est incroyable, et en fait on voit que c'est une technologie qui prend racine dans la réalité du terrain, et clairement une solution qui n'aurait pas pu être pensée par quelqu'un d'autre que quelqu'un qui a lui-même vécu en fait l'utilisation de la mobile money. On voit que c'est vraiment quelqu'un qui a utilisé ça et puis qui s'est dit faut que je connecte les deux. Donc vous pouvez le suivre sur Twitter. Hein. Il y a quelques interviews de lui en anglais. Et voilà, le projet est assez incroyable et c'est étonnant.
Tu vois, la manière dont toi tu tournes la problématique, on peut la voir autrement. Toi, en tant que Bitcoiner, la question que tu te poses, la question que la communauté des Bitcoiners se pose vis-à-vis de cette application, c'est est-ce que c'est pertinent d'utiliser une solution custodial pour faire des transactions Bitcoin ou pas? Le problème, il se pose autrement pour des no-coiners. Ils auraient plutôt tendance à se demander, bah, on a du mobile money qui marche, qui fonctionne. Pourquoi est-ce que j'utiliserais Bitcoin? Tu vois? Et c'est là que, quand tu creuses le sujet, tu te rends compte des limites du mobile money. On n'en a pas forcément parlé. Le mobile money est vendu comme une solution super géniale. Tu as plus ou moins évoqué une des limitations, qui est le fait qu'on parle d'argent qui est géré par une compagnie étrangère. Donc, il y a un sujet de souveraineté. Mais c'est pas l'élément qui est le plus problématique, je dis, pour ceux qui l'utilisent. De toutes les façons, on utilise du franc CFA, qui est une monnaie qui est gérée par l'ancien colonisateur. Donc, les sujets de souveraineté, j'ai envie de dire, c'est pas la première préoccupation des gens qui utilisent le CFA. Je veux dire, à la base, la monnaie qu'ils utilisent déjà, il n'y a pas de souveraineté. En fait, le mobile money a trouvé sa limite dans plusieurs choses. La première chose, c'est les frais. Les frais sont relativement élevés. De toute façon, si tu compares au système bancaire ou aux moyens de paiement classiques type Western Union, MoneyGram et autres, bah, c'est sûr, le mobile money en termes de coût est en dessous. Encore, ça dépend. Mais la vraie première limitation, c'est la possibilité de faire des transactions transfrontalières. Parce qu'au début, c'était des transactions entre clients du même opérateur. Donc, il a fallu beaucoup, beaucoup de temps et de médiation des gouvernements pour que le réseau s'ouvre en interconnexion avec les opérateurs, les différents opérateurs d'un même territoire. Et encore plus pour qu'on en arrive sur de l'interconnexion avec les opérateurs d'autres pays. Ce qui n'est pas toujours effectif. Et même quand c'est effectif, c'est des coûts supplémentaires. Donc, Mobile Money a eu sa limitation dans l'extraterritorial, enfin, dans les transactions transfrontalières, dans les coûts relatifs quand il s'agit de transactions transfrontalières. Et c'est là que Bitcoin vient se positionner. Enfin, à mon sens, en tout cas. Parce qu'une des particularités de Bitcoin, c'est que Bitcoin, c'est global, par nature.
Par nature, oui.
Par nature. Quand tu
Exactement.
fais une transaction Bitcoin avec quelqu'un, que la personne soit à 30 cm de toi, ou que la personne soit à l'autre bout du monde, bah, c'est les mêmes coûts, c'est la même vitesse d'exécution, c'est le protocole fonctionne pareil. On n'a aucune distinction. Donc Bitcoin est un réseau global par nature. Et ça, c'est un des éléments qui a poussé l'adoption. Le mobile money, je le considère comme étant un élément de contexte qui vient déjà permettre aux gens d'être familiers au concept d'argent électronique. C'est pas évident de concevoir que ton argent, tu le possèdes dans un téléphone et que tu fais les transactions avec. C'est pas évident. Des gens qui ont l'habitude d'utiliser mobile money, ce pas-là, ils l'ont déjà.
Bien
Ils
sûr.
conçoivent facilement ce truc.
Et c'est ça que je vois comme une longueur d'avance, parce qu'en fait, ils ont déjà fait cette gymnastique mentale d'arriver à conceptualiser que leur argent peut être sur un téléphone. Ce qui est encore dur pour beaucoup de personnes aujourd'hui en Europe de considérer que du Bitcoin peut être de l'argent alors que ça n'a pas d'existence dans le monde réel. Donc c'est franchement étonnant et je pense que tout ça devrait être au cœur des réflexions quand on réfléchit à Bitcoin, en tout cas dont la monnaie se propage, quoi. C'est franchement étonnant. Mais voilà, en tout cas, c'est le genre de choses où je pense que bah, ton analyse, elle est vraiment pertinente parce que t'en parles des fois sur ton podcast. Et moi, j'avais peut-être une question aussi. Tu connais donc ce qui se passe dans beaucoup de pays d'Afrique, peut-être pas tous, mais il y a un pays où on en a beaucoup entendu parler qui a adopté Bitcoin il y a quelques temps et au final qui a fait marche arrière. C'est le Centrafrique. Je pense que du coup, on a un peu un devoir d'information sur qu'est-ce qui s'est passé. Et en tout cas, Je serais curieux d'avoir ton analyse de la même manière que tu viens nous faire avec la mobile money, mais sur l'échec de l'adoption par un pays africain de Bitcoin.
Alors, la nouvelle de l'adoption de Bitcoin en République centrafricaine, bah, moi en tant que Bitcoinais, je pense que tout le monde, tous les Bitcoiners dans le monde entier l'ont très bien pris. C'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Forcément, il n'y avait aucun signe précurseur du fait que ça arrivait. Donc c'est tombé un peu comme. Enfin, personne ne s'y attendait en gros, mais en même temps, c'était une superbe nouvelle. En même temps, il y a eu beaucoup d'inquiétudes. On se demandait bah, d'où ça venait, pas forcément qui était de la manœuvre, mais surtout, vu qu'on n'avait pas, on ne voyait pas dans la communauté de Bitcoin centrafricain ou de communauté de Bitcoin en Centrafrique, on se demandait bien d'où ça pouvait venir.
D'où venait l'influence?
D'où venait l'influence, exactement. Donc il y avait ces inquiétudes, il y a eu là, il y a une délégation de Bitcoin qui y est allée pour s'enquérir un peu du truc et puis pour proposer leur aide au gouvernement centrafricain. Mais en fait, avec du recul, on se rend compte que les raisons, c'est mon analyse personnelle,
Bien
hein,
sûr.
après ça n'engage que moi ce que je dis, les raisons qui ont poussé le gouvernement centrafricain à adopter Bitcoin n'étaient pas forcément en phase avec la philosophie, avec l'éthos de Bitcoin. Parce qu'ils ont très vite viré à la création d'une crypto nationale, le Sangocoin.
Sangocoin,
Ça a été un échec patent.
ils ont proposé aussi de tokeniser une partie du pays. J'ai essayé de voir et c'est vrai que c'était. On voyait une initiative maladroite on avait l'impression de revenir au white paper de 2016 en voyant l'initiative maladroite de quelqu'un chez lui qui voudrait lancer son projet, et pourtant là c'était lancé par un gouvernement.
C'était vraiment dommage en fait, c'était vraiment dommage. Ils ne sont pas restés à Bitcoin, ils ont voulu lever des fonds, du financement, en utilisant finalement toute la mécanique des cryptos. White paper, NFT, métaverse, on va tokeniser les infrastructures, enfin les matières premières du pays. On va offrir la nationalité à ceux qui vont investir dans notre ICO. Vraiment, en fait, ils ont recopié tous les codes de ce qu'on voit dans le domaine crypto, mode ICO, avec un lancement pompeux, une vidéo faite avec le président lui-même. C'était vraiment obscur. Et derrière, finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait l'influence. Enfin, c'était de la levée de fonds qu'ils voulaient faire, clairement. Maladroitement, en utilisant des influences, il y avait des compagnies étrangères qui les soutenaient dans ce truc-là. Personnellement, j'ai trouvé ça extrêmement déplacé et pas très bien fait. Bah, la preuve en est qu'après avoir fait leur ICO, ils ont eu à peine 1 million, 2 millions de dollars. En fait,
Ce qui est ridicule
c'était
à
ridicule.
l'échelle des cryptos,
Absolument,
c'est.
absolument. Et bien évidemment, comme la plupart des projets de ce type-là, ça a végété. Et finalement, bah, on en entend juste plus parler, en fait. Donc. Et bien évidemment, il y a des influences politiques qui se font, avec l'influence de. Enfin, la République centrafricaine, en fait, est dans une zone économique régionale. Donc, c'est la zone économique de la CEMAC, donc la Communauté économique d'Afrique centrale, qui partage avec la zone économique d'Afrique de l'Ouest, UEMOA, la même monnaie, le franc CFA. Donc, c'est deux zones économiques différentes qui partagent la même monnaie. Mais c'est des coupures, des billets différents par zone. Mais c'est censé être la même chose, c'est du franc CFA. Donc, quand ils ont fait leur annonce, bien sûr, il y a eu le jeu politique, tu as eu l'influence, les contre-annonces de la Banque centrale et de la communauté de la zone économique qui disaient que ça allait à l'encontre des traités, donc il fallait qu'ils fassent marche arrière, il y a eu beaucoup de négociations. Donc, la loi a été modifiée. Donc, j'avoue que c'est un peu un flou actuellement. Au début, c'était Bitcoin à cours légal, maintenant, c'est Bitcoin crypto-monnaie de référence. Enfin, il y a eu un petit micmac et ils ont changé la loi pour atténuer les choses, j'ai envie de dire, enfin, je crois. Donc, pour l'instant, c'est plutôt statu quo. On n'en entend plus beaucoup parler. Le gouvernement ne communique plus dessus. On ne voit plus les tweets du président qui expliquait Bitcoin, qui expliquait des principes de Bitcoin. On pensait qu'il avait compris. Après, bon, dans l'implémentation, c'est pas ce qui ressort. Donc, pour l'instant, on n'entend plus parler. C'est juste, il n'y a plus rien qui se passe quand on regarde de loin.
Mais voilà, et puis, je pense que c'est une... Du coup, on apprend aussi, la communauté Bitcoin apprend aussi à ne pas encenser, du coup, à travers ça immédiatement n'importe quel projet. Parce que je pense que l'adoption de Bitcoin par Centrafrique a été nourrie par le Salvador, où tout le monde pensait que le Centrafrique serait le prochain Salvador, qu'on avait un nouveau Nayib Bukele qui avait compris Bitcoin et qui allait tout changer et révolutionner. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas du tout ça.
Non, dans les faits, on n'y était pas du tout. Je préfère plutôt moi parler quand il s'agit d'adoption de Bitcoin, quand il s'agit de comment est-ce que les gens s'approprient Bitcoin et toutes les solutions que Bitcoin apporte. Je préfère plutôt prendre l'exemple du Nigeria, qui est vraiment à l'opposé de ce qui se fait à la Centrafrique. On n'est pas dans une adoption qui est poussée par un gouvernement qui aurait pris un décret, qui en aurait fait cours légal. C'est même tout le contraire. Mais on a plutôt une adoption bottom-up qui vient vraiment du peuple.
Exactement.
C'est des gens qui ont des problèmes, qui ont vu en Bitcoin un moyen de résoudre ces problèmes-là et qui l'utilisent, et ça monte et ça monte, et les gens l'utilisent de plus en plus. Et c'est pour ça que le Nigeria fait la une de couverture sur Bitcoin, est interprété d'une manière ou d'une autre en fonction de qui le lit, comme il veut, en fait, interprété comme il veut. Et puis, n'empêche que la chose, ça continue d'avancer. Le Nigeria, le Kenya, l'Afrique du Sud, qui est un pays qui est un peu plus... disons qu'ils ont une approche un peu plus... Là-bas, Bitcoin est toléré. C'est même pas toléré, je veux dire. Il y a un peu plus d'accompagnement du gouvernement. Il n'a pas donné cours légal au Bitcoin, mais utiliser Bitcoin, c'est autorisé. Et il y a beaucoup de choses qui se développent en Afrique du Sud également.
D'accord. Tout ce qui se passe, en tout cas, sur le continent est vraiment étonnant. Et j'avais une question parce que ça me... Au final, avec ce qui s'est passé au Centrafrique, moi j'ai vraiment l'impression qu'on tourne autour limite du scam, de quelque chose de pas très net. Et du coup, quel est dans les faits, quel est l'état des scams autour des cryptos? Parce que je sais que c'est déjà nous, on est sensible à... Enfin, on voit beaucoup de gens se faire scammer dans l'écosystème à travers tout un tas de projets fumeux. C'est, je pense, du coup, ce qui s'est passé au Centrafrique à l'échelle d'une nation. Est-ce que, du coup, c'est quelque chose qui est récurrent sur le continent? Est-ce que ça freine pas l'adoption? Parce qu'en fait, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que Si on me parle de crypto-monnaie, que je me fais scammer, que mon gouvernement se fait scammer, quand un gars comme Machankura, dont on a parlé juste avant, te propose le Lightning Network en te disant que ça va changer le monde, de mon point de vue non éduqué, j'ai envie de me dire, mais est-ce que c'est pas un autre scam ? Qu'est-ce qui différencie? Et du coup, est-ce que c'est pas au final un problème en termes d'adoption de devoir exprimer la frontière pour les gens entre ces scams et puis ce qui peut se passer sur Bitcoin?
C'est une très bonne question. Les scams, il y en a énormément. Il y en a énormément. Et pour la petite histoire, c'est un scam qui m'a poussé à lancer mon podcast.
D'accord.
À l'époque. Okay. Et vraiment, on avait un scam de grande envergure touchant crypto qui avait fait fureur dans la communauté africaine, donc francophone, aussi bien dans ces pays-là, dans le Cameroun, en Côte d'Ivoire et tout, que dans la diaspora de ces pays qui vivaient en France, au Canada, aux États-Unis. Donc c'est un mec qui avait lancé une grosse arnaque. et puis qu'il a transformé en crypto, en mode il lance la crypto et que tu dois apporter tel montant et que tu seras rémunéré dans sa crypto toutes les semaines, tous les mois, ce genre de truc. Et ça a été retentissant l'année dernière, le gros, un gros, 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 gros scam. D'ailleurs, la personne qui était à la base de ce scam-là avait des liens avec le gouvernement centrafricain, pour dire la chose. Donc, il y en a énormément. Mais en fait, c'est un frein. C'est pas vraiment un frein, je dirais que c'est une contrainte. Mais moi, je ne vois pas ça forcément comme un frein dans le sens où ces scams-là, ils se renouvellent tout le temps. Et il y a toujours des gens qui tombent dans le piège. Donc, j'ai envie de dire que le fait qu'il y ait des scams n'empêche pas ces gens-là, la fois d'après, de se remettre dans d'autres scams, j'ai envie de dire. Là, tu offres une solution, c'est sûr qu'ils s'y mettront. Quand ils s'y mettront, ils verront que ce n'est pas un scam, donc ils auront tendance à le perpétuer. Mais je ne le vois pas comme quelque chose dans l'absolu qui va freiner les choses. Moi, c'est un élément
Bien
de
sûr.
contexte
Je comprends.
dont on tient compte dans son analyse et que enfin, les gens s'y adapteront de toutes les façons. Donc pour moi, c'est pas vraiment un problème. Mais effectivement, ce qui s'est passé en Centrafrique. Bon, les plus extrémistes diront que c'est un scam à l'échec étatique. Après, ça se justifie ou pas, mais bon, le projet finalement, il a été avorté. Il y en a énormément, il y en a énormément. Et enfin, moi, c'est un des éléments qui me tient vraiment à cœur, sensibiliser les gens, enfin, pas sensibiliser, j'ai envie de dire, apporter de l'information pour que les gens se rendent compte de la différence fondamentale qu'il y a entre Bitcoin et les cryptos. Parce que plus tu t'intéresses aux cryptos, bah plus tu es plus susceptible d'être scammé. Parce que tu auras tendance à chercher le prochain Bitcoin, la prochaine crypto qui va faire x20. Parce que les gens qui s'intéressent aux cryptos, malheureusement, une grande partie, c'est par appât du gain. Donc ils cherchent le prochain truc qui sera le plus performant. Donc bien évidemment, ils tombent généralement sur des scams. Le fait est que se concentrer sur Bitcoin pour régler ces problèmes de taux de bancarisation, d'accès très limité au système financier, machin et tout, qui, au premier abord, peut paraître pas intéressant, mais quand tu regardes l'adoption que les gens font de Bitcoin en Afrique, c'est pour régler ces problèmes-là, ces problèmes de base de la monnaie, ces problèmes de tu as une monnaie qui est pas très bien gérée et du coup qui est inflationniste, voire hyperinflationniste, et c'est pour ça que les gens utilisent Bitcoin. Quand tu prends l'exemple du Nigeria, j'aime bien en parler. Le Naira, qui est la monnaie nigérienne, c'est une monnaie qui est très inflationniste. On est en train de parler d'inflation à deux chiffres depuis une bonne dizaine d'années. Je pense que l'année dernière, il devait avoir une inflation à un peu moins de 20%, 19-20%. Donc c'est beaucoup. Pareil, quand tu prends le Ghana, qui est un autre pays anglophone d'Afrique de l'Ouest, le Sidi, c'est 50% d'inflation l'année dernière. Donc, les gens ont besoin de se préserver de cette inflation, mais surtout, ils ont besoin de pouvoir faire des transactions. Parce que tu as des pays dans lesquels le contrôle des capitaux, il est très fort. Western Union, par exemple, tu ne peux pas sortir d'argent du Ghana, par exemple. Tu as des accès très limités au dollar ou à l'euro pour faire des transactions internationales. Mais c'est pour ça que les gens utilisent Bitcoin. Tu vois, par exemple, quand les gens donnent les chiffres de 40% d'adoption, 30% d'adoption de Bitcoin au Nigeria, les gens auront tendance à croire que tu peux avoir du Bitcoin à n'importe quel coin de rue au Nigeria, que si tu interroges quelqu'un, il te dira oui, j'ai utilisé Bitcoin et tout. C'est pas exactement ça. On n'est pas dans ce cadre-là. On n'est pas dans une adoption massive du Kidam dans la rue. C'est des gens, notamment des entrepreneurs, des importeurs, des hommes d'affaires, qui ont besoin de faire des transactions. Mais le contrôle des capitaux fait qu'ils n'ont pas accès au dollar pour pouvoir faire des transactions avec leurs fournisseurs en Turquie, en Chine, en France, dans n'importe quel pays. Donc le moyen le plus facile pour eux de le faire, c'est Bitcoin. Tu peux trouver très facilement des gens qui peuvent t'échanger pour 500 000 dollars de Bitcoin. Le Nigeria, ils sont très cash. Hein. C'est un pays où les écarts de niveau de vie sont extrêmes, comme dans la plupart des pays qui se développent vite. Et donc, tu trouves quelqu'un qui te convertit ton Naira en Bitcoin et tu fais ta transaction immédiatement. Donc, quand c'est comme ça, tu n'es pas exposé à la volatilité du
Bien
Bitcoin,
sûr.
qui est un des éléments qui freine l'adoption, qui fait que les gens ont peur de Bitcoin. Mais si tu utilises Bitcoin comme un moyen d'échange, un moyen pour faire une transaction one-off, Quand tu le fais, bah, tu n'es pas exposé à la volatilité. Tu as utilisé les rails de paiement Bitcoin pour faire ton paiement dans un contexte où tu n'as pas d'autre choix. Tous les autres rails sont bloqués pour différentes raisons. Et Bitcoin est plus optimum, y compris en termes de coût et de rapidité de transaction. Donc, les Nigérians, ce qui explique ce taux d'adoption très fort du Bitcoin au Nigeria, c'est des hommes d'affaires, des importeurs qui l'utilisent pour faire des transactions du commerce transfrontalier. C'est pas des gens qui ont l'idéologie, qui huddlent en espérant que ça fera fois 100, fois 200. C'est pas forcément. On est plus sûr des gens qui l'utilisent pour une transaction one-off. Donc, c'est ça qui justifie le truc. Les gens ont besoin de faire la rémittance, t'as besoin de payer la scolarité de ton enfant qui est dans un autre pays, tu utilises Bitcoin, tu lui envoies de l'argent immédiatement, tu as besoin de faire de la rémittance. C'est vraiment ces cas d'utilisation. On n'est pas dans de la conservation parce qu'on est dans les économies qui, par définition, ne sont pas caractérisées par une grosse épargne. Donc c'est vraiment, on l'utilise pour faire des transactions. Et c'est ça qui booste l'adoption. Maintenant, à côté de ça, tu as les Bitcoiners, les communautés, parce que quand les gens l'adoptent, ça fait que les gens s'éveillent à ces sujets-là. Et donc, tu as des communautés de Bitcoiners qui naissent dans ces pays. Les gens créent des produits, les gens développent des applications. Et c'est dans ce sens-là que je te parlais d'énormément de choses intéressantes qui viennent de ces pays-là. On a beaucoup parlé de Machin de Cora, mais pas que. Pour moi, une des initiatives les plus intéressantes sur le continent autour de Bitcoin, c'est Kala Africa. Africa, qui est une initiative, en gros, ils font de la formation de développeurs Bitcoin.
D'accord.
Donc, c'est basé au Nigeria. Donc, ils doivent être à leur quatrième ou cinquième cohorte. Donc, ils forment des Bitcoiners, des développeurs Bitcoin Core, qui sont immédiatement disponibles. Et je peux te dire qu'immédiatement après, bah, les gens, ils sont employés par les gens, ils développent des solutions autour de Bitcoin.
Est-ce que c'est pas de là que vient le... un des développeurs que je connais, Aboubakar?
Tout à fait. Enfin, je dirais pas, c'est pas de là qu'il vient, je ne pense pas, mais c'est lui qui a l'initiative.
Ouais,
il fait partie de l'équipe qui gère Kala Africa.
Je connais, il est assez. On le voit beaucoup sur le devant de la scène.
Exactement.
T'as
de grosses têtes fortes de l'écosystème Bitcoin africain qui se sont mis ensemble pour créer cette initiative-là, Kala Africa, où ils forment des développeurs. Je pense que Khalil, il fait partie des formateurs et c'est un des cofondateurs de cette initiative. Donc il y a cette initiative très forte qui booste l'adoption parce qu'on a besoin de gens qui vont développer avec la perspective africaine au Nigeria. Et puis tu as des communautés Bitcoin qui essaient de créer des économies circulaires Bitcoin. T'en as au Sénégal, donc Bitcoin Sénégal, qui essaie de créer des événements. Ils sont notamment à l'initiative de Dakar Bitcoin Days, qui est une des conférences Bitcoin Only en Afrique francophone, donc qui se déroule à Dakar. Tu as des communautés comme Bitcoin Ekasi, qui sont en train de créer une économie circulaire Bitcoin en Afrique du Sud. Tu as Bitcoin Dada au Kenya. Tu as des communautés comme... au Ghana, tu as Bitcoin Queries. Je pourrais te filer tous ces noms après que tu les affiches dans la vidéo. Donc, c'est d'excellentes initiatives comme ça. Tu en as même au Togo, au Bénin. Tu as des initiatives et des conférences qui sont organisées. À Abidjan, en Côte d'Ivoire. Tu as Babi Cash qui, par exemple, a lancé une initiative qui permet au commerce d'accepter Bitcoin. Donc, c'est une initiative récente. C'est vraiment de petites initiatives. Vraiment, faut prendre du recul par rapport à ça. On est en train de parler, quand on parle des pays francophones, on parle d'une adoption entre 2, 4%, 5% dans le meilleur des cas. Donc, on n'est pas sur quelque chose d'exotique. Alors que dans des pays anglophones, comme le Nigeria, on est sur 30-40%. Mmh. Donc, faut vraiment prendre ces informations hein, en tenant compte de ces éléments de contexte. C'est de petites initiatives, mais qui sont en train de monter parce que de plus en plus, les gens se posent des questions. Les gens ont besoin de se préserver de l'inflation. Les gens ont besoin de faire des transactions. Ils y vont dans Bitcoin. Malheureusement, il y a beaucoup de désinformation. Il y a beaucoup de considérations, d'idées préconçues, de gens qui considèrent Bitcoin comme de la spéculation. C'est des gens qui font du trading. Mais quand tu creuses, ce qui drive l'adoption, c'est pas la spéculation, c'est pas le trading, c'est pas les arnaques. C'est ces solutions-là. C'est des gens qui les utilisent pour répondre à leurs besoins de tous les jours. Et ça monte de plus en plus.
C'est excellent. Bah, vraiment, moi, je suis curieux de suivre tout ce qui va continuer de se passer en Afrique. J'espère même pouvoir y aller prochainement pour découvrir un peu certains visages qu'on voit aussi sur Twitter qui interagissent avec l'écosystème francophone qu'on connaît bien tous. Et notamment, je sais qu'on a BTC Mastermind qui va avoir lieu au mois de septembre, qui est une initiative au Bénin. Tu en as cité d'autres. Il y aura d'autres conférences au cours de l'année 2023. Donc j'espère pouvoir être présent, ou au moins quelqu'un de Découvre Bitcoin va pouvoir être présent pour couvrir ce qui va se passer là-bas. Mais je pense que la grassroots adoption, c'est ce qui fonctionne le mieux. Je pense que c'est cette adoption qui est basée dans les valeurs qu'on souhaite pour Bitcoin, et j'espère vraiment que ça va continuer. Donc je pense que on va s'arrêter là. Je pense que on peut dire aux viewers d'aller t'écouter donc sur ton podcast qui est hebdomadaire, hein.
C'est tous les dimanches, donc c'est hebdomadaire. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, on essaie de discuter de ces sujets là tous les dimanches 20h UTC, 22h de Paris.
Voilà, et venir te poser les questions et découvrir, si vous avez des questions sur Bitcoin et Bitcoin en Afrique plus particulièrement, venez assister à ce Twitter Space. Et c'est toujours un bon enchaînement le dimanche avec une continuité avec l'entonnoir, donc allez-y. Et puis merci.
Donc, merci à toi pour l'interview, ce fut un bon moment.
Allez, excellent.
Merci d'avoir écouté notre podcast, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux et nous mettre une note sur votre plateforme de podcast préférée, ça nous aide énormément. Ceci était une production Découvre Bitcoin, je vous retrouve très bientôt sur les réseaux. Merci à vous et n'oubliez pas de le partager grandement. Salut !